écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 13h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Jambon Saint-André. Dans quelques semaines, c'est le bicentenaire de sa mort. Il est mort en 1813 à Mayence. Ce personnage, première anomalie, c'est son portrait. Il y a très peu de portraits, donc comment était-il, qui était-il? Il a eu la chance d'être, entre guillemets, il a eu la chance d'être en prison avec David, et c'est David qui a fait, avec les moyens du bord, en prison, un petit portrait, qui ensuite, donc, on retrouve sur une statue devant l'ancien collège, une statuette devant l'ancien collège à Montauban, qui a été aussi dessinée par Marc Dautry, ou par Jean-Marc Sanchez, ou par Jean-François, je redonnerai son nom tout à l'heure. Alors, ça c'est la première anomalie, donc le portrait, on n'a pas beaucoup de portraits de lui, ce qui montre peut-être déjà que son souci n'était pas d'apparaître et de se montrer ici ou là. Deuxième anomalie, son nom. Jambon Saint-André, quand on est à Montauban, qu'on vient du Rhône et qu'on va vers Caylus, comme je l'ai fait tout à l'heure, on a sur la droite la rue Jambon Saint-André, écrit Jean, trait d'union bon, trait d'union Saint, trait d'union André. Et c'est cette dénomination que tous les historiens ont retenu, sauf Daniel Ligou. Daniel Ligou qui a écrit en 1989 une biographie et qui a tenu à, si l'on peut dire, redonner le nom quasi officiel, enfin le nom de l'état civil. Il s'appelait André Jambon. Et s'il a pris ce nom de Jean Bon Saint-André, c'est ensuite quand il était pasteur, et que en tant que pasteur protestant, avant la Révolution, ils essayaient d'avoir des noms moins repérables que le nom de l'état civil. C'était donc le deuxième point sur ce personnage. Troisième point sur ce personnage, il est né en 1849. 1849, vous faites l'opération vite fait, ça fait qu'il avait 40 ans au moment de la Révolution. J'insiste là-dessus parce que avec les années 1960, on s'est mis en tête que la Révolution s'était faite par les jeunes. Que ce soit Castro, que ce soit en France ou ailleurs, mais 68. Mais ça c'était une vision des années 60 après le baby-boom. En vérité, toutes les révolutions précédentes se sont faites ont été faites par des hommes donc d'une quarantaine d'années. C'est un point qu'il faut bien observer. Il n'y a pas d'âge pour être révolutionnaire. Alors, Jambon Saint-André, ceci étant, ne va pas être révolutionnaire tout de suite. Et dans ce premier épisode de la présentation de Jambon Saint-André, nous allons simplement nous pencher sur le Jambon Saint-André de 1749 à 1790. Ce Jambon Saint-André, il est fils de facturier. Facturier, à Montauban, ça voulait dire manufacture, ça voulait dire le textile. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, à Montauban, il y avait 9000 ouvriers. La seule entreprise de Violette-Daignan, qui était une entreprise, on va dire, de privilégiés, privilégiés non pas pour ceux qui y travaillaient, qui étaient bien sûr exploités comme tous, mais privilégiés du côté des propriétaires catholiques et qui étaient des côtés des propriétaires lié au régime en place. Donc, Jambon Saint-André est fils de facturier, mais côté protestant, comme tout le monde le sait. Il est cadet, en conséquence, c'est pas lui qui peut prendre la succession de ses parents. C'est pas lui qui peut prendre la succession de ses parents. Il va donc partir et il va il va travailler dans la marine marchande. C'est un point que je mentionne parce qu'ensuite cette question-là de la marine et de Jambon Saint-André reviendra dans l'actualité. Donc, pour terminer sur ses présentations, il sera ensuite pasteur protestant. Et voilà qu'arrive la révolution de 1789. La révolution de 1789, au départ, on ne le voit pas apparaître ni dans les discussions sur les états généraux, ni pour se faire élire, ni pour être candidat à la municipalité. Jean-Paul Saint-André, dans les écrits, dans ses écrits qui précèdent la Révolution, apparaît comme quelqu'un de modéré et d'assez paisible, cherchant uniquement, en tant que pasteur protestant, d'aider la religion protestante à avoir un petit peu plus de liberté que sous l'Ancien Régime. Le point qui va changer sa vie, et ça va être le deuxième élément de cette introduction, le point qui va changer sa vie, c'est le 10 mai 1790, un événement qui va se produire à Montauban et auquel il va être vraiment affronté de manière très 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 importante. Le 10 mai 1790, ça veut dire en deux mots, les éditions La Brochure viennent de publier un livre à ce sujet pour essayer de donner non pas le point de vue de Pierre, Paul ou Jacques, mais pour essayer de donner les documents de l'époque. L'historien Édouard Forestier avait rassemblé 120 brochures sur ce personnage. Alors, ce qui veut dire que le 10 mai 1790, la municipalité royaliste, parce que c'est ça le paradoxe, c'est une municipalité royaliste qui est élue le 21 février 1790, va animer, impulser, aider une émeute populaire où c'est que les forces de l'ordre vont avoir des morts, 5 morts, alors que du côté des émeutiers, il y a eu simplement quelques blessés, pas plus. Voilà.
Brave marin, reviens de guerre tout doux. Brave marin, reviens de guerre tout doux. Tout mal chaussé, tout mal vêtu, brave marin, d'où reviens-tu, tout doux? Madame, je reviens de guerre, tout doux. Madame, je reviens de guerre, tout doux. Qu'on apporte ici du vin blanc, que le marin boive en passant, tout doux. Brave marin, se met à boire, tout doux. Brave marin, se met à boire tout doux. Se met à boire et à chanter, et la belle hôtesse à pleurer tout doux. Ah, qu'avez-vous, dame l'hôtesse, tout doux? Ah, qu'avez-vous, dame l'hôtesse, tout doux? Regrettez-vous votre vin blanc que le marin boit en passant? C'est pas mon vin que je regrette tout doux. C'est pas mon vin que je regrette tout doux. Mais c'est la mort de mon mari, monsieur, vous ressemblez à lui. Dites-moi, dame l'hôtesse, tout doux. Ah, dites-moi, dame l'hôtesse, tout doux. Vous aviez de lui 3 enfants, vous en avez 4 à présent, tout doux. J'ai tant reçu de ses nouvelles, tout doux. J'ai tant reçu de ses nouvelles, tout doux. Qu'il était mort et enterré, que je me suis remarié, tout doux. Brave marin, vida son verre, tout doux. Brave marin, vida son verre, tout doux. Sans remercier tout en pleurant, s'en retourna son bâtiment.
Nous sommes donc le 10 mai 1790. Que se passe-t-il exactement dans cette ville de Montauban qui, donc, paradoxalement, a comme maire un marquis, le marquis de Sieurac? Il va se passer que le marquis de Sieurac souhaite prendre le pouvoir sur la garde nationale. Et donc, au moment de la Révolution, partout s'installent des gardes nationaux. Et cette garde nationale est animée essentiellement par des protestants, mais avec aussi des catholiques. Le responsable de cette garde nationale s'appelait Dupuy-Montbrun, c'était un Aveyronnais, c'était un catholique. Il va y avoir des premières escarmouches devant les églises, parce que la municipalité a choisi ce jour-là pour faire l'inventaire des biens des églises. Et ces premières escarmouches vont se poursuivre. Quelques gardes nationaux, voyant monter la température, se sont réfugiés à la mairie pour essayer de protéger la mairie, mais ils ont été attaqués par les émeutiers qui font que il y a eu donc 5 morts, 6 ensuite et beaucoup de blessés, les blessés étant carrément envoyés aussitôt en prison. Alors voici, grâce à l'historien Guy Astoul, ce que dit, je dis grâce à lui parce que c'est lui qui a retrouvé cette lettre de Jean-Paul Saint-André. Voici ce que dit Jean-Paul Saint-André sur cet événement pour comprendre à quel point il a été marqué. Dans les conciliabules secrets de nos bourreaux, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'insurrection aristocratique, dans les conciliabules secrets de nos bourreaux, 300 autres avaient été condamnés à mort. Aucun des officiers de la garde nationale, connus pour leur attachement à la Constitution, et c'était le plus grand nombre, ne devait échapper à cette horrible proscription. Quelques autres citoyens étaient aussi condamnés. J'étais du nombre de ces derniers. Je me dérobais par la fuite au sort qui me menaçait. Mais ma femme fut insultée, chassée de sa maison, couchée un jour par un brigand, obligée de se réfugier chez une parente et trop heureuse d'échapper à la mort. Ma maison fut occupée pendant la nuit de ce désastreux événement par une escouade de 7 hommes. 2 officiers municipaux eurent l'insolence d'y aller faire visite le lendemain sous prétexte qu'il leur avait été dénoncé que j'avais eu un dépôt d'armes. Ils ne trouvèrent rien et s'en retournèrent sans même avoir dressé procès-verbal de leur visite. Plusieurs autres se sont réfugiés dans les villes voisines, Bordeaux et Toulouse. Ce jour-là, Jean-Paul Saint-André donc est obligé de fuir, comme des centaines de protestants de Montauban. Ce jour-là se produit un événement national, puisque c'est une émeute populaire qui essaie d'aller à l'encontre du courant révolutionnaire. Jean-Paul Saint-André va donc se réfugier à Bordeaux, à Toulouse d'abord, à Bordeaux ensuite, et il va comprendre qu'il doit, bien sûr, se lancer lui aussi dans la révolution. Et nous allons ensuite voir par quels moyens il va essayer de se lancer dans cette révolution.
La vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant les écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, risé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace est à passer. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, donc si nous songeons, si tu médites des fois, tu fasses firmament une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène, la musique a fini, mais la qui vit, et fine là-bas, sans parler, cassée, la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, donc si nous songeons, si tu médites des fois, tu fasses firmament une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène, la musique a fini, mais la qui vit, et fine là-bas, sans parler, cassée, la balade dans l'horizon. Si va lui battre la vie, ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y l'évasif, vas-y l'enfant, tout petit déjà. Jadis on l'a dit, mais il a la question comme des oublis la pascoumaco. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis-donc, dans des mots doux, on dit désir ici, l'efficace est à pas passer. Et si loneliness disparaît tout l'engage, t'aimerai comme bec, qu'une désir ambitieuse, assurément libère, tout est l'anima de sauvage, la cause, comme t'es la hate. T'as bala, tu que triga, tu que traga, tu que toca, tu que riga, tu que raga, tu que rigo, ragunana, bebe mil un cop petit caburut. En cuer de copa, tu que triga, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raga, tu que rigo, ragunana, bebe mil un cop ça se vit, évite à l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pour aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, nous donc, dans des mots doux, du désir ici, efficace est à passer. Si tu vois, tu vois ton droit.
Jean-Bon Saint-André, nous l'avez compris maintenant, est obligé de se réfugier à Bordeaux. À Bordeaux, il va trouver un certain nombre d'amis, parce qu'il faut bien saisir le rapport entre Bordeaux et Montauban. Je l'ai dit tout à l'heure, Montauban est une ville textile industrielle. 22, 23 000, certains vont jusqu'à même 28 000 habitants. Bon, à cette époque-là, c'était difficile à mesurer. C'était très important comme population, comme production industrielle, comme population ouvrière. C'était aussi important du point de vue de la minoterie. Ce qui fait que la bourgeoisie protestante de Bordeaux et la bourgeoisie protestante de Montauban étaient fortement liées. En conséquence, le 10 mai 1790, quand à Bordeaux, enfin le lendemain, le surlendemain, quand à Bordeaux ils ont appris les événements, ils ont aussitôt envoyé vers Montauban 1500 gardes nationaux, ce qui n'était pas tout à fait légal, puisque les gardes nationaux ne devaient intervenir que dans leur propre commune, mais pour sauvegarder la légalité, ces gardes nationaux ont été envoyés jusqu'à Moissac, où à Moissac, on devait attendre pour savoir ils devaient poursuivre leurs opérations ou pas. Ça arrive toujours aujourd'hui aussi. L'Assemblée nationale a décidé d'envoyer un médiateur qui fit libérer les prisonniers. Bref, je ne vais pas développer sur ce point. Pour en revenir à Jean-Bon Saint-André, il va se lier à un certain nombre de Bordelais qui vont l'encourager à revenir vers Montauban, pour y prendre part à la vie politique, pour essayer de changer la situation. Ceci étant, et ça permet de comprendre un petit peu ce qu'était le Montauban de l'époque, ceci étant, il ne peut pas se rendre à Montauban tout de suite, il va attendre jusqu'au mois de décembre. Montauban, avec cette forte présence catholique, le fait que il se méfiait et il s'est méfié jusqu'au mois de décembre. Là, comment dire, deux ou trois points l'ont incité à revenir. Le premier point, c'est qu'à l'Assemblée nationale a finalement décidé le 31 juillet 1790 de destituer la municipalité royaliste et de rendre le pouvoir à la garde nationale républicaine. Enfin, républicaine, c'est pas encore la République, mais du côté du moins de la Révolution. Il va donc saisir et écouter un petit peu l'évolution de la ville. La ville va évoluer aussi du côté de ses ouvriers catholiques qui avaient cru bon de soutenir les aristocrates contre les patrons protestants du textile. Là aussi, il va y avoir donc une évolution avec la création de la Société populaire. En conséquence, Jean-Paul Saint-André va revenir en décembre 1781 et le point majeur de son entrée en politique, c'est son entrée à la Société populaire. Société populaire qui existe partout à ce moment-là en France. Elle existait à Caylus, comme elle existait à Caussade, elle existait partout. La société populaire, ça veut dire que c'était les révolutionnaires, c'est-à-dire le peuple le plus souvent, qui se réunissaient tous les jours. Et avec, là aussi, ce qu'on appellerait aujourd'hui une démocratie participative, puisque celui qui était président de l'Assemblée populaire ne pouvait l'être que pour un mois, pour ne pas installer une classe politique, on va dire, définitive. Jean-Paul Saint-André, lui, va arriver à la tête de la société populaire. Il va obtenir une petite faveur parce qu'il va pouvoir rester deux mois président. Mais c'est là le nouveau Jean-Paul Saint-André qui fait son apparition, on va dire, à partir de 1791 à Montauban, un Jean-Paul Saint-André engagé dans la Révolution. Au revoir pour aujourd'hui, puisque dans l'émission suivante, nous allons parler effectivement du Jean-Paul Saint-André devenu membre de la Convention et membre de ce satané comité de salut public. Vous écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'ici, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 13h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio.